Carrefour.
Quand vous me dites « Carrefour baisse ses prix !»
Eh oui, et de 10% en moyenne parmi vos produits préférés d'hygiène et d'entretien. Comme la boîte de 30 protèges slip larges Carrefour Soft qui passe de 1,36€ à 99 centimes, soit 27% moins cher. Et c'est chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur carrefour.fr.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Prix baissé à compter du 1er avril 2024 par rapport au prix permanent des produits. Détail et liste des produits concernés sur carrefour.fr.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Espagne Midi. On est avec vous jusqu'à 15h avec Rémi Barré, Daniel Riolo, Emmanuel Dancourt et Laurent Dandrieux. On est avec vous, bien sûr, grâce au 32-16 pour vos réactions sur notre dernier débat. Un village breton qui veut repeupler son centre-ville en y installant des immigrés. Bonne ou mauvaise idée. On vous attend également sur l'application RMC, rubrique Direct Studio. On aura Élise Dangean qui, à 14h30, va revenir sur l'histoire de ce professeur étranger interdit de rentrée scolaire car il lui manquait un papier administratif. On a du nouveau dans cette affaire. Il y aura également les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Et puis on vous fait gagner des produits Apple dans cette émission.
Exactement, des produits de la gamme Apple dans chacune de nos émissions sur RMC tout au long de cette semaine. L'un d'entre vous sera avec nous tout à l'heure à l'antenne vers 14h40 et il remportera soit un iPad, soit une Apple Watch. Et à ce moment-là, eh bien, le ou la gagnante aura le choix. Soit il garde ce cadeau, soit il y renonce, il le remet en jeu pour tenter d'ouvrir le coffre RMC avec à l'intérieur des AirPods ou le dernier iPhone 14. Mm-hmm. iPhone 14, on l'a fait gagner hier d'ailleurs.
Ouais, incroyable.
Vous vous inscrivez tout de suite par SMS en envoyant le mot coffre au 732-16. Coffre par SMS au 732-16.
RMC, Estelle Midi.
Et on va s'intéresser tout de suite dans Estelle Midi à l'histoire du jour. Ça se passe à Calac, dans les Côtes d'Armor, en Bretagne, où une famille très fortunée a décidé, avec l'accord du maire, d'installer une quinzaine de familles immigrées, des réfugiés politiques, pour redynamiser le village. Des familles qui logeront dans des bâtiments rénovés et qui se verront proposer un travail, une décision qui a beaucoup de mal à passer auprès des habitants, Rémi.
Oui, tout part de ce constat que tu as évoqué, hein, qui peut être partagé par bien d'autres communes en France. Celle de Calac, donc, a besoin d'être redynamisée, baisse de la population, patrimoine immobilier qui s'abîme, faute d'être entretenu, emploi non pourvu malgré 18% de taux de chômage. Oui. L'idée, en partenariat avec une fondation privée qui se charge notamment du financement de l'opération, c'est de faire venir du sang neuf sur place, en l'occurrence des étrangers à qui l'État français a accordé le statut de réfugié politique et qui bénéficie à ce titre d'une autorisation de séjour de 10 ans. Un projet qui n'est pas sans provoquer certains remous. Les élus de Calac ont reçu des messages insultants, parfois des menaces, menaces de mort, d'incendie de leur maison, et l'extrême droite s'en est mêlée, voyant dans cette expérience un laboratoire breton du grand remplacement, cette théorie sur le remplacement des Français par les étrangers. Une manifestation dans la commune est d'ailleurs prévue le 16 septembre prochain, à l'appel notamment de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, ou encore d'un groupuscule de l'extrême droite radicale comme le Parti de France.
Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée, le fait de vouloir repeupler un village avec des réfugiés politiques? Laurent Dandrieux, je me tourne vers vous.
Au risque de vous surprendre, Estelle, je dirais que c'est une très mauvaise idée. Oui. Et si j'étais un habitant de Calac, j'aurais bas le moral, comme dirait la reine d'Angleterre. Mais ça envoie du lourd. Non, plus sérieusement, ça me paraît une très mauvaise idée pour deux raisons. La première, c'est que ce genre d'initiative, elle peut se défendre si elle vient à l'initiative des habitants. Si les habitants d'un village décident de se réunir en disant on ne trouve pas de solution, pourquoi pas faire venir des réfugiés et qui votent pour, je leur dis bonne chance, mais pourquoi pas. Là, c'est un truc imposé de l'extérieur et qui suscite de fortes réticences visiblement dans la population. Parce que dans vivre ensemble, il y a ensemble. Et si les gens sont pas d'accord, si vous leur imposez de l'extérieur...
Quand vous achetez une résidence secondaire en Bretagne, à Calac, les gens n'ont pas leur mot à dire, donc je vois pas où est le problème, en fait.
Là, il s'agit pas d'acheter une résidence secondaire, il s'agit de faire venir des dizaines de personnes en même temps.
C'est une quinzaine de familles en plusieurs années.
Là, vous avez une famille très fortunée, nous dit-on, qui décide, qui est
en partenariat avec la mairie,
oui, d'accord, mais
qui impose un choix,
à une partie très importante des habitants.
Ça permet au commerce de vivre, ça permet aux écoles de pouvoir fonctionner.
Je vous dis simplement un truc, et là, je suis désolé, mais moi, je l'ai fait pour moi. C'est que apparemment, ça crée plutôt de la dissension et de la dispute au sein de la commune que une dynamique positive. Ensuite, moi, je suis un peu énervé d'entendre toujours dire oui, mais c'est bien parce que ça va permettre de pourvoir des emplois non pourvus. Mmh. Mais pourquoi ils sont non pourvus, ces emplois? Parce qu'ils sont payés au lance-pierre.
Bah d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait alors?
Eh ben, moi, je trouve que c'est absolument scandaleux.
On exploite les réfugiés, c'est ça?
D'accepter comme solution qu'on exploite des gens. Bah ouais. En plus, du coup, en faisant pression, des pressions pour baisser les salaires. Et en fait, on est en train de
mais ces gens, ils sont là, ils sont réfugiés.
Ils sont là déjà parce qu'on l'a accepté qu'ils viennent.
D'accord, mais enfin, là, aujourd'hui, ils sont en France, donc ils font rien.
D'accord.
Donc, on les garde à ne rien faire.
C'est super parce que ils vont pourvoir des emplois dont les Français ne veulent plus. C'est une réintroduction de l'esclavage, en fait.
Exactement. C'est absolument vrai, Laurent. On se rend pas compte de tous les sous-entendus qu'il y a là-dessous. C'est à moi de parler, celle.
Bah oui, allez-y.
J'enchaîne. Non, mais
vas-y, parce qu'après je vous défonce tous les deux. Donc vas-y.
Tu ne vas rien défoncer du tout. Le gros problème de ce raisonnement, de la question, c'est de commencer par un regard politique. Et effectivement, à partir du moment où on dit que Reconquête a dit non, derrière, si on dit que c'est pas une bonne idée, immédiatement, on va être rangé dans le camp des méchants. Or, il ne s'agit absolument pas de ça. Il y a juste des choses à respecter. C'est d'abord demander l'avis des habitants, parce que la mairie, même si elle est en association avec des particuliers,
une fondation.
Ben la mairie va quand même devoir demander aux habitants, sinon les habitants sanctionneront le maire qui prendra une telle décision. Mmh. On n'oblige pas les gens, on ne décrète pas le vivre ensemble. Ça n'est pas politique, c'est anthropologique. On n'oblige pas les communautés à vivre les unes.
Ça va mal se passer.
Personne ne dit ça. On remarque juste que les gens ont du mal à vivre communauté à côté de communauté. Si vous allez, je sais pas moi, au Maroc et vous dites, on va installer un village, on va faire venir, 15 familles, 15 familles de Sénégalais ou d'Ivoiriens, je peux vous assurer que le petit village marocain dira non. Ce sera pas du racisme, ce sera rien du tout, c'est juste.
Ça, c'est du protectionnisme,
De toute façon, il ne faut surtout pas accuser les gens de racisme, ceux qui ne veulent pas de ça. Ça n'a rien à voir, c'est le vivre ensemble ne se décrète pas, on vit naturellement mieux à côté des gens.
Et si c'est 15 familles de Suédois, ça pose problème ou pas?
Ça posera moins de problèmes. Tu sais pourquoi?
Non.
Parce que c'est ce qui s'appelle l'anthropologie, donc on est plus à l'aise avec les gens qui vous ressemblent. C'est juste un état de fait. C'est la nature de l'homme qui est comme ça. On a du mal. Et encore plus aujourd'hui, dans les sociétés actuelles, il y a un truc qui s'appelle l'insécurité culturelle, qui touche énormément de gens dans notre pays, parce que le communautarisme et le multiculturalisme, on voit bien les limites. Et on voit bien que ça n'a pas réellement fonctionné dans notre pays, puisque les gens ne font que se rétracter à l'intérieur de leur communauté, et on se mélange toujours de moins en moins.
Donc
le décréter en installant des gens et en leur disant vous allez vous entendre, les gens vont dire
et pourquoi ils s'entendraient pas?
Mais pourquoi ils s'entendraient?
Il y a eu un village en Bretagne, encore un village en Bretagne, où il y avait des ouvriers maliens qui étaient venus pour les abattoirs. Il se trouve qu'effectivement, comme tu le disais, ils n'arrivaient pas à trouver de Français. Ça a permis effectivement à des écoles de rester ouvertes, à des commerces de rester ouverts. Et quand effectivement la préfecture a dit attendez, oh là là, ils n'ont pas de titre de séjour, on va les virer. Il y a eu toute une manifestation dans le village pour les garder justement parce que ça s'est bien passé. Donc en fait, ça s'est bien passé
de payer des gens moins chers parce que tu peux pas offrir l'emploi aux Français qui veulent pas faire le taf.
Mais ça, c'est ta vision.
Mais quelle vision? C'est juste qu'on exploite des gens. On se rend pas compte, en fait, de ce qu'on fait. Et je t'assure que la base, c'est la démocratie, c'est demander aux gens s'ils ont envie. D'accord. Demande-leur aux gens.
Mais effectivement, il aurait pu y avoir un référendum dans le village. Emmanuel, je vous sens bouillir, là.
Ah ouais, parce qu'on a laissé beaucoup de temps de parole à ces messieurs. Je vais défendre. Tu veux parler d'anthropologie, Daniel? On va parler d'anthropologie. Aujourd'hui, tu serais pas là si les peuples primitifs s'étaient pas mélangés entre eux. Ils se seraient tous éteints. Oula. Donc ça démarre ici. Non mais tu sors des grands mots d'anthropologie, machin. On commence par là. Ça commence par là. Ensuite, dans ce qu'on a pu lire sur Calac, on nous parle d'identité française. Moi, j'aimerais bien savoir ce que c'est que l'identité française sans les étrangers. Ça me ferait beaucoup marrer. Parce qu'on est quasiment tous d'ailleurs, en réalité, les vrais, de vrais Français de souche, qui vraiment ils sont mélangés avec personne. Il y en a pas tant que ça. Parce que c'est évoqué dans l'affaire. Vous l'avez pas évoqué vous, mais ça fait partie du sujet.
Parce qu'on n'a pas forcément envie d'évoquer.
C'est totalement faux.
Laissez-moi.
je l'évoque, moi. Et ensuite, comme dit Estelle, c'est des expériences qui peuvent très bien se passer. Donc visiblement, il y a eu un petit problème de pédagogie dans la manière dont la mairie, dont les élus ont, entre guillemets, vendu les choses. Mais cela dit, on a 15 familles qui sont des réfugiés politiques. Ça veut dire qu'ils viennent de pays où ils ne sont pas en sécurité. Moi, je me mets à leur place de se dire, ils ont tout quitté, ils ont tout perdu. Ils arrivent avec des enfants parfois en bas âge, ils n'ont pas de boulot, mais ils sont prêts à mordre la vie pour qu'on les accepte et pour s'intégrer. Et ces gens-là, ils vont peut-être prendre des boulots, mais en tout cas des boulots que de toute façon les Français ne veulent plus faire, bien payés ou mal payés, les Français ne veulent plus les faire. On sait qu'il y a tout un tas de boulots.
Ça, c'est un premier élément.
Ça, c'est une chose. Ça, c'est un état de fait.
Non, c'est pas un autre problème.
C'est un état de fait. Et Estelle a cité un village de Bretagne. Moi, je vais te citer un village, une petite ville juste à côté de chez moi, en Bourgogne, qui en 2015 a accueilli 45 érythréens, qui étaient des gens, j'ai envie de dire comme nous. Tu dis les Suédois, ce serait plus simple, mais putain, là, pardon, l'humanité, elle est ce qu'elle est. Et moi, je me sens aujourd'hui, je me suis posé beaucoup de questions sur le fait qu'on accueille les bras ouverts les Ukrainiens et que dès que ça vient du continent africain, d'un seul coup, on est un petit peu plus serré.
Parce qu'il y a un truc qui s'appelle l'intégration, qui est plus difficile quand on vient d'une culture.
Laisse-moi te parler de la petite ville à côté de chez moi. Donc, ils sont 45 érythréens, puis après, il y en a d'autres qui sont arrivés. La vieille gendarmerie a été remise en état pour qu'on puisse les accueillir comme dans un foyer. Ils n'étaient pas en famille. Là, c'était beaucoup d'hommes, notamment isolés. Il y a eu une panique dans la ville, et c'est la sous-préfète qui est venue discuter et dire exactement qui étaient ces gens, les prénoms, les noms, les âges, qu'est-ce qui lui est arrivé à celui-là. Et d'un seul coup, ça s'est calmé. Parce que d'un seul coup, ils se sont dit, mais en fait, c'est des gens qui ont besoin de nous. Oui. Et on va les aider. Et alors après, il y en a malheureusement 15 sur 5 qui a pu obtenir l'asile politique en France. Donc beaucoup sont repartis malheureusement.
Ah, bah donc,
dans
alors,
mais
pourquoi alors finalement?
Parce qu'ils n'ont pas eu leur
il
papier.
Il a fallu étudier les dossiers, préparer les gens, leur parler. C'est ce qu'on a demandé, nous. Hein.
L'intégration de ces gens-là s'est bien passée. Et ils ont amené quelque chose. Ils ont apporté toute leur richesse
et toute
leur culture
derrière. Ils sont partis. Donc
mais ce n'est pas de leur faute.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas
finalement, ils ne sont pas restés, Emmanuel. Donc on ne peut pas savoir.
Il y en a qui sont restés, qui sont toujours là.
Oui, mais une poignée, ça n'a rien à voir avec ça. On veut faire une sorte de village.
C'est quand on a fermé Calais qu'on a réparti en France. Voilà.
Le problème, c'est d'imposer aux gens. Il y a une mairie, il y a des gens, il faut leur poser la question. Est-ce qu'ils veulent ou non? Tu fais
mais
un référendum.
Mais ce sera toujours non. T'as un tiers des Français qui votent pour Zemmour et qui votent pour Marine Le Pen.
Donc il y a tout un truc sur le grand remplacement.
Qu'est-ce que c'est que cette merde?
Éric Zemmour, il a fait 7 ou 8, combien il a fait 7%. Donc dis pas que les Français votent pour lui, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir.
Mais par ailleurs, il faut peut-être les écouter, ces gens-là.
Mais ça n'a rien à voir. Arrêtez de les mélanger. Ça n'a rien à voir. C'est trop facile de faire ça. C'est trop facile de dire bon ben voilà si tu as cet avis là ça veut dire que tu es d'accord
sur
tout. C'est pas vrai.
Les HLM, ça n'a pas marché. La politique des HLM n'a pas marché. Donc maintenant il faut passer par la politique des petits villages et des petites villes. Ça s'intégrera plus facilement.
Un mot de Laurent Dandrieu et après on aura Benoît Cohen qui est cofondateur du fonds de dotation Merci et fondateur du projet Horizon.
Bon moi déjà effectivement c'est cette théorie qui consiste à faire de la démocratie uniquement quand on a envie et pas écouter l'avis des gens quand on n'est pas d'accord avec eux, ça je trouve ça un peu pénible. Et par ailleurs, les gens qui votent Marine Le Pen et Éric Zemmour, je suis désolé, mais c'est des citoyens comme tout le monde, ils ont le droit, ils ont voix au chapitre aussi, il faut entendre ce qu'ils ont à dire. Par ailleurs, on nous dit c'est des réfugiés, ils viennent de situations très très difficiles, mais sauf qu'il y en a 90% finalement qui sont déboutés et qui repartent dans leur pays. Donc c'est que, en fait, il y a quand même un détournement fondamental du système de droit d'asile
statut de réfugié politique
au profit d'une immigration qui est une immigration économique et, voilà. donc ça c'est pas acceptable.
Alors on est avec Benoît Cohen, il est écrivain et cofondateur du fonds de dotation Merci et cofondateur du projet Horizon. Merci Benoît Cohen d'être avec nous.
Bonjour.
Alors votre projet fait couler beaucoup d'encre sur le plateau, tout le monde n'est pas d'accord.
Bon.
J'ai rarement vu un plateau aussi enflammé. Benoît Cohen, concrètement, comment ça va se passer justement l'intégration de ces quinzaines de familles que vous voulez voir venir à Calac?
Alors d'abord ça va se passer progressivement, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont écrit n'importe quoi, comme quoi 100 personnes allaient arriver d'un coup, qu'il allait y avoir des boucheries halal et des femmes en burqa dans les rues.
D'accord.
Ce que je trouve intéressant, c'est que ça fait 10 minutes que les deux premiers journalistes qui ont pris la parole parlent de ce projet sans en fait savoir grand chose, parce que la réalité c'est que ce projet c'est un projet qu'on étudie depuis 4 ans, qu'on a fait des réunions publiques, qu'on a parlé avec beaucoup de gens dans le village, qu'il y a quelques personnes qui sont contre, c'est normal, et ces personnes-là on est aussi prêts à parler avec eux. Il y a quand même le maire reçoit quasiment tous les jours entre 5 et 10 personnes inquiètes qui viennent le voir, il leur explique
ce qui fait beaucoup quand même.
La plupart du temps, elles repartent rassurées.
D'accord.
Notre projet, c'est un projet d'intégration, c'est un projet horizontal, pas vertical. On n'est pas là pour faire de la charité. On a d'abord étudié les besoins du territoire concerné. On s'est rendu compte qu'il y avait des manques, qu'il y avait une librairie qui avait fermé, qu'il y avait un manque de personnel en EHPAD. Et quand on parle d'esclavagisme, je trouve ça ultra choquant. On va juste donner du travail à des gens et on va les payer normalement. Je ne sais pas pourquoi, sous prétexte que ce serait des réfugiés, on ne les paierait pas normalement.
Bah, vous ne les payez pas suffisamment cher pour que les Français acceptent. Donc il y a peut-être un problème.
Parce que aller sur place, ce qu'on a fait nous, et essayer de comprendre pourquoi certains métiers, les Français ne veulent plus les faire, ce n'est pas forcément
une question d'argent. Payés.
Non, alors écoutez, s'ils sont mal payés ces métiers, il y a encore beaucoup de Français qui les font ces métiers. Donc nous, on prend en compte.
C'est quoi ces métiers, Benoît?
Bah, par exemple, on a besoin de beaucoup de personnel. Il y a un grand EHPAD dans ce village. Mm-hmm. Il y a besoin de personnel. Mm-hmm. Il manque de personnel. Alors, soit on se dit, bah, c'est pas grave, ils se débrouillent avec le manque de personnel, soit on essaie de trouver des solutions. Nous, on propose une solution. Si vous avez d'autres idées, allez à Calac et proposez des solutions. Là, l'idée, c'est de faire venir des gens progressivement, de les loger dans les vacants, en restaurant les vacants. Donc, c'est gagnant-gagnant pour les gens qui vont être sur place et qui vont voir leur bien restauré avec l'argent. Et d'ailleurs, l'argent, c'est pas que l'argent du fonds de dotation de cette riche famille, comme vous dites, qui est une espèce de fantasme. C'est un fonds de dotation. C'est la région, le département, l'agglomération, la municipalité qui sont derrière nous. C'est pas nous qui imposons quoi que ce soit à qui que ce soit. On est d'abord venu voir tout le monde sur place. On a parlé avec toutes ces institutions. Ils nous ont suivis. On n'aurait jamais débarqué comme ça en disant, c'est des fantasmes. En fait, c'est ce que je trouve, compliqué dans les propos que vous tenez, c'est que, on dirait que nous, on impose quelque chose depuis Paris avec notre argent et que ça plaît beaucoup à plein de gens de croire ça. La réalité, c'est que ça fait 4 ans qu'on travaille, qu'on est avec la municipalité, que tout d'un coup on en parle et que vous m'invitez à en parler, mais que moi, ça fait 4 ans que je travaille dans l'ombre parce que j'aurais pu aller voir les médias et en parler. Au contraire, on fait un travail de fond avec des sachants, avec des associations et tout. Et là, tout d'un coup, parce que y a des extrémistes qui ont décidé d'organiser une manifestation, tout d'un coup, ça intéresse tout le monde. Mais ce projet, il est réfléchi, il est sur le long terme. On va faire venir une première famille, puis une deuxième. On va voir comment ça se passe. Peut-être une troisième. Et vous savez, il y a déjà 25 réfugiés qui habitent à Calac depuis des années et ça ne pose aucun problème. Donc de croire que ces gens ne sont pas intégrables, c'est un fantasme. Et en fait, la réalité, c'est qu'ils sont intégrables et qu'en plus, ils vont apporter quelque chose à ce village.
Non mais c'est toujours pareil,
c'est
Benoît.
Vous savez que
j'ai démarré, Daniel.
France,
c'est toujours.
Tu peux pas critiquer. Enfin, moi je trouve que c'est très bien expliqué de la part de Benoît.
Et la suite c'est quoi alors?
C'est toujours pareil. C'est ceux qui râlent qu'on attend plus quoi.
La suite c'est de faire ça dans plein d'autres villages en France. C'est de peupler la France de cette façon. Ok.
Non. Mais pourquoi pas?
Non. L'idée c'est pas de repeupler la France. La France elle est ce qu'elle est. Il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui ont fui des pays en guerre. Parce que vous parlez d'immigration économique. La plupart des gens ont fui des pays en guerre. Ont fui des.
Pourquoi ils sont déboutés alors?
Mais non, je te parlais.
Les gens qu'on va accueillir, nous, c'est des réfugiés qui ont un statut.
Dans ton village, ils ont été déboutés.
Alors, juste, Benoît Cohen, est-ce que le projet, il a vocation à devenir pérenne? C'est-à-dire que ces familles qui arrivent, est-ce que c'est grosso modo pour les aider au départ et puis après, bon, bah, une fois qu'elles se sont intégrées, qu'elles ont fait ce métier, etc., elles peuvent soit aller dans d'autres villes ou faire d'autres métiers, ou alors c'est vraiment pérenne, elles s'installent à Calac et vous espérez qu'elles y resteront, allez, ad vitam aeternam, on va dire.
Bah oui, si elles se sentent bien et que les gens s'entendent bien avec elles et qu'elles s'intègrent, elles peuvent rester. Et vous savez quoi? Elles peuvent même partir parce qu'ils sont libres. C'est des gens qui ont un statut de réfugiés. Mmh. S'ils veulent rester comme vous ou moi, si vous êtes à Paris aujourd'hui, vous voulez aller habiter en Bretagne, vous avez le droit. Et ben eux aussi ont le droit. Donc ils vont venir, ils vont s'installer, ils vont travailler. S'ils sont pas contents, ils s'en vont. Et si jamais ça se passe bien, ils restent.
Je veux dire, ça marchera pas ça collera pas avec l'idée initiale qui est de faire revivre Calac. Si les gens au bout d'un an ou deux ans, si jamais ils veulent déménager et aller habiter, j'en sais rien.
On fait le pari de la positivité. On se dit la positivité, ça va marcher parce que les gens ont envie. Et vous parlez de négatif.
Benoît, tout le monde ne dit pas que c'est négatif là pour le coup.
Moi, je demande juste un référendum, c'est tout. Moi, je demande juste qu'on demande aux gens de la ville de voter.
On leur a demandé. Et alors, attendez. Ça, c'est dans un deuxième temps, il y a la question du référendum, qui est une question qui se pose. Et il y a des discussions en ce moment pour savoir comment organiser ça.
J'ai juste demandé ça, moi.
Non, mais vous avez dit un peu plus que ça, excusez-moi.
J'ai dit un peu plus de ça parce que j'ai donné mon avis, mais si jamais le référendum fait sortir une réponse favorable, moi je m'incline devant la démocratie, les gens vous continuez, j'ai aucun problème, je trouve ça formidable. Mais moi je veux d'abord qu'on demande aux gens, c'est tout.
Ben ouais, on leur a beaucoup demandé, on va continuer à leur demander, référendum ou pas, on va voir comment ça se passe, mais en tout cas, on passe beaucoup de temps, nous, et surtout la mairie, parce que c'est eux qui sont sur place, et c'est pas un projet qui vient de l'extérieur, c'est au départ un projet que la mairie a souhaité, donc c'est des gens qui ont été élus démocratiquement.
Bah merci beaucoup Benoît Cohen en tout cas d'avoir été avec nous. Moi je trouve ce projet assez formidable. Donc bravo. Ça ne fait pas l'unanimité autour de cette table, mais moi je trouve que c'est un beau projet. Merci Benoît Cohen d'avoir été avec nous. On va prendre Émilie qui nous appelle de Charost. Je ne sais pas si je prononce bien dans le Cher. Bonjour Émilie.
Bonjour, bonjour à toute l'équipe. Alors c'est pas Charost, c'est Charost.
J'en étais sûre. J'avais deux choix, j'ai préféré Charost et voilà ce qui se passe.
Vous êtes excusés, tout le monde fait l'erreur, c'est pas grave.
Émilie, alors vous vouliez en fait revenir sur ce sujet parce que vous accueillez des réfugiés depuis 2 ans.
Oui, alors tout à fait. Alors je suis assez choquée de certains propos quand même, hein. je tiens à vous le préciser. Quand on parle d'esclavagisme, mais attention, enfin la définition de l'esclavagisme, quand on parle de réfugiés, au secours, l'OFPRA doit être ravie d'entendre ça. Je pense pas que ça soit un bon message à passer, surtout quand on fait appel à la France solidaire, hein, parce que voilà, c'est des gens qui viennent de pays en guerre, comme vous l'avez dit. Il y a une solidarité à l'échelle internationale qui se met en œuvre depuis des années et bien évidemment que nous, les petits villages, eh ben il faut être positif par rapport à cette opportunité. Il faut le prendre comme une opportunité.
Mais alors comment vous avez fait vous, Émilie, concrètement, cet accueil de réfugiés depuis 2 ans, ça s'est passé comment?
Alors effectivement, donc nous, ce qui s'est passé, c'est qu'on était une nouvelle équipe municipale et on nous a informé qu'on allait accueillir, qu'on allait être un centre, que le village allait être un centre de transit. Mmh. Donc l'État a choisi notre village de Charo pour différentes choses par rapport à la possibilité d'accueillir par l'habitat des réfugiés. Okay. Et aussi par rapport à la mobilité, parce qu'il faut savoir que ces réfugiés, ils sont pris en charge par une structure qui vont les amener à l'autonomie. Ce sont des gens, nous on a, pour vous raconter une anecdote, on a une famille un jour qui a appelé au milieu de la nuit pour savoir où est-ce qu'ils pouvaient boire, enfin où est-ce qu'ils pouvaient trouver de l'eau pour boire, par exemple.
D'accord.
Ils n'avaient pas conscience qu'en ouvrant le robinet, ils avaient possibilité d'avoir de l'eau au robinet.
D'accord.
Donc on est dans des situations, ça fait sourire, mais on est dans des situations de grandes difficultés. Ça dépend des familles. Certaines familles qui viennent, nous on a eu une première famille qui venait de Syrie, c'était des Syriens, c'était formidable. Enfin voilà, ils sont dans la ville d'à côté maintenant, sur Bourges.
Mais ils travaillent, par exemple, les enfants vont à l'école ?
Les enfants vont à l'école. Nous, on est un village où on a une école, donc de la maternelle et primaire. Donc ces enfants sont directement intégrés, donc toujours gérés par la structure. Nous, c'est une chance incroyable. Nos enfants se mélangent culturel. Évidemment que c'est quelque chose de très positif pour nous. Le maire Ludo Coste a mis en place un accueil républicain pour ces réfugiés. Donc c'est-à-dire que on a 25 places sur le village. On est le plus grand centre de transit.
Mais juste pour être concret, Émilie, voilà, c'est juste ces réfugiés. Ok, les enfants vont à l'école, super. Les réfugiés, ils font quoi pendant la journée? Ils travaillent? Ils sont payés?
Alors, ils apprennent le français.
D'accord.
Il y a toute une organisation qui se met autour. Donc il y a des activités. À savoir que nous, c'est pareil. Il a fallu que on mette en place des choses parce qu'on avait envie de mettre en place des choses. Vous parliez tout à l'heure des populations, de référendums, etc. Nous, effectivement, on nous a dit voilà, vous allez accueillir des réfugiés. On est allé vers la population qui était réticente, mais c'est humain et malheureusement c'est l'humanité qui est comme ça. C'est que ce qui les fait parler tout de suite, c'est la crainte, la peur
de l'inconnu. Oui,
voilà, donc c'est la peur qui règne. Donc on nous a demandé de mettre des caméras de surveillance, etc. Mais non, mais pas du tout. Au fur et à mesure des mois, évidemment, ça s'est pas du tout passé comme ça. C'était quelque chose de très positif.
D'accord.
Avec des réfugiés qui vont dans les commerces, qui vont dans le bar du village, qui vont acheter leur pain à la boulangerie.
Mais alors là, manifestement, ils ne travaillent pas, donc avec quel argent?
Alors, c'est l'État qui chaque famille a une dotation tous les mois. Voilà.
Ah voilà. Okay. Mais je suis pas sûr que les Français, au moment où on est en crise, au moment où il y a problème économique, vont dire, on a assez de cœur pour accueillir des gens et donner de l'argent.
Qu'est-ce qu'on a fait avec les Ukrainiens? Ça t'a pas gêné?
Non, non, mais... qu'est-ce qu'on a fait avec les Ukrainiens? Enfin, je veux dire, les Ukrainiens, c'est exactement la même chose. Là,
moi, je suis pour quelque chose de simple, c'est demander l'avis aux Français.
Mais, oui, mais là, ce qu'on te dit, en fait, Émilie, ce qu'elle te dit, c'est que, en fait, ça a été demandé, qu'au début, les gens ont peur. Et puis, une fois que c'est fait, ils ont peur.
Il n'y a pas que ça. Il y a aussi
vous réduisez
une certaine irritation à voir qu'effectivement, on fait, pour ces réfugiés, des efforts financiers considérables auxquels les Français de la France périphérique, qui sont souvent en grande difficulté financière aussi, n'ont absolument pas droit.
Voilà.
Et mais ça, je suis désolé, ça choque.
Mais alors, sauf que dans le premier projet, par exemple, en fait, il n'y a pas d'effort financier à faire, puisque ces réfugiés politiques vont travailler.
Cette dame nous parle de son village.
Oui, non, mais là,
on réagissait à ce que vient de dire la dame.
Mais sur le premier projet,
ils vont bosser. Sur l'autre aussi, oui. L'autre, il est financé parce qu'il y a une famille derrière. C'est la
oui, mais ils vont bosser en EHPAD, les réfugiés. Donc, en fait, ils vont travailler, ils vont gagner leur vie en travaillant. Enfin, encore heureux qu'ils gagnent leur vie. Et donc, derrière, ils vont consommer avec l'argent qu'ils ont gagné, le fruit de leur travail. C'est pas pareil que d'accueillir et d'avoir une rente.
Ça se fait en 2 minutes, hein.
Voilà. Ça se fait pas en 2 minutes.
Allez, on va terminer avec. On a plus d'auditeurs. On avait Nasser, mais on a perdu Nasser. Merci Émilie d'avoir été avec nous. Merci à Benoît Cohen également d'avoir été avec nous sur ce débat. Alors, on va voir si Benoît Cohen a réussi à convaincre nos auditeurs du bien fondé.
Je suis impatient du résultat. Je veux entendre le résultat. On va voir tout le nombre de mauvais Français. Attention, ça va tomber.
Pas caricatural, c'est bien. En tout cas, 78% de ceux qui sont prononcés sur les réseaux sociaux sont opposés.
Oh, mais c'est pas possible, dis donc.
Enfin, c'est pas parce que les gens sont opposés que c'est une mauvaise chose.
Oh, ben non, mais dis donc.
C'est pas les gens, c'est les auditeurs de RMC. Je veux dire, d'abord, c'est pas toute la population française.
Oui, Emmanuel, bien sûr. Bien sûr.
Écoutez, là, je sens que de toute façon, ça ne fera pas l'unanimité. Dans un instant, elle va faire l'unanimité. C'est Élise Dangean. Elle va revenir, sur l'histoire de ce professeur étranger. Bah, j'espère qu'il trouvera grâce à vos yeux, Daniel et Laurent. Ce professeur étranger interdit de rentrée scolaire parce qu'il lui manquait juste un petit papier administratif. Et on a du nouveau dans cette affaire. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi. Dans cette dernière partie, tous les jours à 14h30, on accueille Élise Dangean. RMC s'engage pour vous.
RMC, Estelle Midi.
RMC s'engage pour vous.
Et Élise, le vendredi, on fait le point sur des dossiers brûlants d'RMC s'engage pour vous. Et là, on va revenir sur l'histoire qui nous avait beaucoup touché de ce professeur étranger qui ne pouvait pas faire sa rentrée scolaire parce qu'il lui manquait un papier administratif. Vous avez tenté de l'aider.
C'est ça. En pleine pénurie de profs, Guillermo, 29 ans, au parcours scolaire exemplaire au Honduras et en France, où il est arrivé il y a 10 ans, a bien failli ne pas pouvoir exercer. Il avait pourtant été reçu au concours de professeur dans l'enseignement privé et était même déjà affecté dans un collège de Bergerac en Dordogne. L'administration refusait de lui fournir sa dérogation de nationalité, indispensable pour exercer. Motif invoqué, l'absence de son attestation de journée d'appel de préparation à la défense. Sauf que cette journée n'existe pas au Honduras. Guillermo avait alors tout tenté, contacté la préfecture, le rectorat et même un avocat, sauf que les délais étaient très courts. En un week-end, nous avions réussi à débloquer la situation. Le jeune prof a donc pu faire sa rentrée lundi au collège Sainte-Marthe de Bergerac. On l'a eu ce matin au téléphone entre deux cours. Écoutez.
Je suis très contente d'avoir pu retrouver mes élèves lundi matin et puis j'ai une dizaine de classes, donc j'ai pu voir ma dernière classe ce matin. Et donc oui, je suis très content d'être devant eux et de pouvoir les accompagner cette année dans la construction du savoir de la 6e à la 3e.
Voilà, on entend la joie de Guillermo, on est content pour lui également, et ça a quand même été un parcours du combattant pour lui.
Ouais, et c'est pour ça qu'il aimerait aujourd'hui que les procédures soient simplifiées pour les profs étrangers qui souhaitent exercer en France.
Et on demandait on va dire de manière générale le titre de séjour, le casier judiciaire en France, puis le casier judiciaire du pays d'origine. Ce sont des choses qui sont tout à fait fondamentales. Mais quand on demande un papier qui n'existe pas en Honduras, je pense que c'est fort improbable. Parce que nous, on joue le jeu. On nous demande de suivre un parcours pour devenir enseignant, de suivre 2 ans d'études, de passer un concours difficile. Donc oui, j'espère qu'ils vont simplifier les choses pour les années à venir.
Voilà, et on rappelle que cette année, plus de 4000 postes n'ont pas été pourvus au concours d'enseignants, dont près de 300 dans l'enseignement privé. Et parmi les disciplines les plus déficitaires, il y a la physique chimique et donc la matière qu'enseigne Guillermo.
Voilà, et vous avez réussi à aider Guillermo. Bravo à vous, Élise Dangean. Bravo à toutes les équipes d'RMC s'engage pour vous. Et si vous aussi, vous avez un problème, bah, n'hésitez pas, vous contactez RMC s'engage pour vous à l'adresse rmcpourvous@rmc.fr. Et Élise, Amélie et toutes leurs équipes essaieront de vous aider. Merci beaucoup Élise et bon week-end à vous. Dans un instant, on vous fera gagner des cadeaux Apple dans l'émission. On aura eh bien notre grande gagnante ou notre grand gagnant du jour. Et puis il y aura les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui, avec notamment le ras-le-bol d'habitants en Seine-et-Marne. Ils n'en peuvent plus des locations Airbnb. On vous expliquera pourquoi tout de suite.
RMC Estelle Midi. RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
On est ensemble jusqu'à 15h dans Estelle Midi. Dans un instant, les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Mais tout de suite, le coffret RMC, c'est parti.
Oserez-vous ouvrir le coffret RMC ?
Le coffret RMC.
Le coffre RMC qui vous permet de gagner plein de cadeaux Apple dans cette émission.
Exactement, à gagner des iPads, une Apple Watch ou alors peut-être des AirPods ou un iPhone 14.
Et nous sommes c'est génial. Nous sommes avec Nicolas qui nous appelle du Val d'Oise et qui est prof d'anglais en lycée professionnel. Bonjour Nicolas.
Bonjour Estelle, bonjour l'équipe.
Alors la bonne nouvelle, bonjour. Nicolas, c'est déjà que vous allez gagner un produit Apple. Mais quel produit Apple ? Ça c'est toute la question. Ça va Nicolas ?
Ça va super bien, je suis trop content de vous parler.
Écoutez, moi aussi Nicolas, et j'aimerais
Fais la séquence en anglais, Estelle, avec le prof.
De quoi ?
Fais la séquence en anglais avec le prof.
I'll do it for her.
I have a gift. Today, but which gift?
What do you want, Nicolas ?
Oui.
What would you like ? Un iPhone or un AirPod ?
Il dit any gift, donc ce que je veux.
Ah, any gift.
Any gift will be okay.
Non mais, j'adore ça. Nicolas, vous aimeriez quoi ? Non mais franchement, là d'abord, vous allez pouvoir avoir soit un iPad, soit une Apple Watch. Vous préférez quoi ?
Ben, un iPad.
Un iPad. J'aimerais beaucoup vous faire plaisir, Nicolas.
Il est dans le coffre ?
Et j'ouvre.
Écoute.
J'ouvre l'enveloppe. Et dans cette enveloppe, il y a une Apple Watch, Nicolas.
C'est très bien.
C'est très bien.
Je suis hyper content.
Ah bah écoutez, c'est bien. Alors, vous êtes content, moi aussi. Mais, Nicolas, si vous êtes content, mais finalement content bof, vous avez une autre solution.
Voilà.
Renoncer à l'Apple Watch, Nicolas, et ouvrir le coffre pour gagner soit un iPhone 14, qui a été présenté hier, soit des AirPods. Mais, dans ce cas-là, vous devrez renoncer à l'Apple Watch. Alors, qu'est-ce que vous choisissez ?
Je sais pas, parce que je vous écoute, là, tous les jours. Donc, hier, je sais qu'il y a un iPhone 14 qui est tombé.
Eh ouais.
Alors, j'hésite beaucoup, beaucoup.
Parce que, par exemple, entre l'Apple Watch et l'iPhone 14 ?
Je préférerais l'iPhone 14.
Mais entre l'Apple Watch et l'AirPod ?
L'Apple Watch.
Je préfère l'Apple Watch.
Mais alors, qu'est-ce qu'on fait ?
Ouais. Je garde la watch.
Vous gardez l'Apple Watch, Nicolas ?
C'est le jeu des boîtes, en fait.
Alors, vous savez quoi ? J'ouvre le coffre et on voit si vous avez eu
raison ou pas,
Nicolas. Je fais le code. C'est le 1205E. J'y vais.
Oh là là. Moi, je dis qu'il n'y a pas l'iPhone.
Et Nicolas, vous avez bien fait de garder l'Apple Watch, parce que dans le coffre, il y avait des AirPods. Bravo, Nicolas.
Trop bien, merci.
Very good. Et on est content de vous avoir eu en ligne, Nicolas. Merci de votre fidélité, puisque vous écoutez tous les jours Estelle Midi. Et vous n'êtes pas le seul, d'ailleurs, parce qu'on a encore battu un record hier. Merci à tous, déjà, tous les gens qui nous écoutent.
Moi, je peux jouer
à la
boîte, j'adore ce jeu.
Si
tu veux jouer, mais toi, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Mais en tout cas, vous pouvez continuer à jouer dans le Moscato Show. Pour continuer à vous inscrire, vous envoyez coffre par SMS au 732-16. Coffre par SMS au 732-16. Non, tu n'as pas le droit de jouer, Daniel.
Formidable jeu, j'adore.
Estelle Midi.
Les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Et tiens, Rémi, on va démarrer avec la prise de parole du jour.
Oui, une prise de parole de Mathias Pogba.
Ah,
qui a déclenché l'affaire autour de son frère Paul Pogba. Alors, pour une des premières fois, là, il ne s'exprime pas sur TikTok ni sur Twitter.
Pas,
C'est son avocat qui prend la parole et qui dit que Mathias Pogba se dit totalement étranger à l'affaire d'extorsion de fonds qui vise son frère. On peut se demander, vu qu'il passe pas par le même canal que d'habitude,
d'habitude, qu'il dit qu'il est étranger à l'affaire. Est-ce qu'il est laissé en train d'essayer de...
Donc, quand il a fait les premières vidéos et qu'il lisait les feuilles dans les mains, il était pris en otage.
Ouais, je sais pas.
Il a peut-être été marabouté.
Bref, ça veut dire qu'à ce moment-là, on le forçait à dire ce qu'il a dit. Les menaces, et je vais balancer sur toi.
Peut-être pas, qu'il se dit, je suis allé trop loin et qu'il essaie de se rabobicher, je sais pas.
C'est quand même bizarre cette affaire, Daniel.
Bah, oui, c'est ce que je suis en train de dire, Estelle.
Ah oui.
C'est-à-dire que soit dans un premier temps, il était limite séquestré, on l'a obligé à lire les feuilles, ce qui n'est pas complètement impossible, parce que la façon dont il tenait les feuilles et tout, il n'avait pas l'air très serein.
Non.
Et toutes les menaces. Soit si c'est pas le cas, il est en train de se rétracter parce que la police est sur le coup et ils ont trouvé un accord entre eux. En tout cas, j'ai l'impression que l'affaire est en train de se tasser doucement.
Non, mais ça va nuire à l'équipe de France. Hein.
Ah, moi je sais pas, l'équipe de France, c'est un domaine que vous maîtrisez mieux que moi. Vous avez plus d'expérience.
Je l'ai maîtrisé une fut un temps. Et là,
vous avez plus d'expérience que moi dans le domaine. Moi, quand il y a l'équipe de France dans cette émission, je dis rien.
Je vous dis que c'est pas bon signe.
En plus, il y a votre ami qui est un peu dans la fanate quand même. Hein.
Écoutez, c'est pas.
Quand même, hein. Noël. J'ai un souci, attention, Estelle. Hein.
Franchement,
changer d'amis.
Quand on parle du foot, c'est pour parler de l'affaire Pogba, c'est pour parler de l'affaire Charavoil du PSG, c'est pour parler.
Pour parler de la victoire de Nantes contre
Olympiakos LGBTQ qui a été enlevé, c'est pour parler des supporters qui débordent. Mais c'est quoi ce sport? C'est quoi
mais
ce sport?
Parce que là, on va pas parler des résultats, hein, tout ça. Hier, les clubs français ont assuré Coupe d'Europe. Et on n'en parle pas parce que je ne sais pas. Bon.
Parce que Estelle, c'est les trains qui n'arrivent pas à l'heure qui l'intéressent.
C'est Rémi qui a voulu faire ça, Mathias Pogba. Bon, on attend les suites de cette affaire. Les voisins du jour, là, vous allez tous pouvoir intervenir.
Porte qui claque, valise qui tape contre les murs, sac poubelle abandonné dans les parties communes des habitants du Val d'Europe en Seine-et-Marne témoigne du nombre croissant d'incivilités générées par les locataires de meublés touristiques prisés des visiteurs des parcs Disneyland Paris notamment. Oui. Et oui, c'est dans le Parisien ce matin. Pour remédier à ce problème, le journal rappelle que Val d'Europe Agglomération a décidé en juillet dernier de limiter à 2% le nombre de meublés touristiques dans le centre urbain et à 1% dans le reste de l'agglomération.
En fait, comme les gens sont pas chez eux, ils s'en fichent complètement des voisins, quoi. Donc évidemment, ça donne ce genre d'incivilité. Ça vous agace prodigieusement, Laurent?
Oui, moi j'ai eu le cas chez moi, un appartement sous chez moi. Alors moi, c'était pire parce que un week-end, on a découvert qu'il avait été loué par trois prostituées qui s'en servaient pour recevoir leurs clients. Alors ça.
Ça faisait du bruit.
Ça faisait du bruit, du passage, pas mal de passage, oui.
C'est attraction dans l'immeuble.
Voilà, c'est effectivement, la concierge était un peu, ça l'a un peu émotionné. Mais c'est sûr que les gens qui arrivent à n'importe quelle heure, qui se parlent d'une pièce à l'autre en hurlant. Une fois même, ils sont arrivés, c'était des personnes qui se rejoignaient de provenances différentes. Donc, il y en a une qui est arrivée en premier, la deuxième arrive à 2h du matin, elle s'est trompée d'étage, elle a sonné chez moi. Enfin, non, c'est un enfer. C'est un enfer.
C'est une prostituée aussi, non?
Non, et puis c'est pas moi qui l'avais appelé non plus. Mais non, c'est un enfer.
Je tiens quand même à dire que la Cour d'appel de Montpellier a jugé dans un arrêt récent du 20 octobre 2020 le fait que le propriétaire est responsable du bruit qu'il y a dans l'appart. Donc si tu veux attaquer le propriétaire aujourd'hui, tu as le droit. Le propriétaire qui lui, c'est pas forcément à qui il loue son meublé ou son Airbnb. Donc là, la législation française est en train d'essayer d'aider les propriétaires aussi à encadrer les choses. Mais en tout cas, le propriétaire de l'appart au-dessus ou en dessous de chez toi, il est responsable, donc tu vas pouvoir attaquer.
En tout cas, il a arrêté après cette affaire parce que il a senti que ça dérapait grave.
Et il a dérapé sur un préservatif dans le.
Non, mais justement, est-ce qu'il faut sanctionner les propriétaires, Daniel? Et voilà, parce que quand même, le propriétaire est responsable des gens à qui il loue son appartement. Donc à un moment, si les gens commettent des exactions dans l'immeuble, c'est pas possible. Quoi.
Bah, visiblement, la justice a statué. C'est très bien ce que vient de nous dire Emmanuel. Bah oui, tu loues. Tu développes un Airbnb dans un immeuble et t'as des gens qui défilent et ça se passe toujours mal. Les autres personnes vont pas être contentes. À un moment, faut bien qu'elles se retournent sur quelqu'un.
Mais après,
donc le propriétaire
doit porter plainte contre ton voisin parce que il a loué tel jour à telle heure.
Une fois, peut-être pas deux fois. Au bout de 10 fois, à mon avis, tu vas aller quand même. Ouais. D'abord, tu vas lui dire. Tu vas dire, fais gaffe à qui tu loues parce que c'est le bordel. S'il fait pas gaffe, tu vas en référer à la copro s'il y a une copro. Et puis après, à un moment, il va bien falloir que tu fasses quelque chose. À un moment, faudra quand même faire quelque chose.
Mais enfin, il est pas là quand ça se passe. On peut pas prouver.
Il a qu'à mieux choisir.
Moi, je pense que c'est très compliqué de faire valoir ses droits dans ces cas-là.
La nostalgie du jour.
La société Emarsys, c'est une plateforme spécialisée sur le marché de la donnée marketing, a récemment réalisé une étude sur les objets disparus que les Français regrettent le plus. Alors, en tête arrive le mythique Walkman qui manque à une personne interrogée sur 4.
Ah bon, bizarre.
Ouais, viennent ensuite les cassettes VHS.
le Polaroid,
bon, qui, revient,
qui est ressorti, les tourne-disques et la fameuse Game Boy Color.
Bon, franchement, c'est des conneries, ça.
Pourquoi?
Non, mais ça vraiment. Ça,
c'est
ça,
le télécran qui me.
Mais non, mais ça, c'est typique, le genre de sondage qui fait ressortir une forme de nostalgie. Puis l'objet, tu le prends, tu la donnes aux gens à qui ça manque, là, Walkman et tout. Pendant 24 heures, ils sont là, oh, regarde comment ça marchait, oh, regarde ça. Et puis hop, après, ils leur foutent à la poubelle. C'est vraiment ça, c'est.
Mais quel rabat-joie! Mais c'est pas possible! Mais qu'est-ce que t'as bouffé ce matin, toi? Mais t'es un vrai rabat-joie, c'est mais ça qui est
toi,
beau!
Mais si toi, si je te donne un Walkman, tu vas l'utiliser, toi. Alors, tu vas trouver ça mieux que le téléphone avec les AirPods.
Elle est capable. Elle est capable.
Un, j'ai gardé mon Walkman. Donc j'en ai toujours.
Avec les cassettes,
Oui, j'ai toujours mes cassettes. Deux, j'ai toujours un magnétoscope chez moi. Et mon petit. Parce que j'ai des tonnes de VHS, pour tout te dire.
Les enfants regardent les cassettes VHS.
Ouais, on a des vieux dessins animés, des vieux films. On a des DVD, on a tout ça. On a aussi les vieilles VHS que j'avais, évidemment.
Honnêtement, donc, vous les regardez encore. Regardez-moi dans les yeux. Et puis, vous regardez encore les VHS.
Vous avez regardé.
Vous regardez encore les VHS.
Est-ce que, oui. Est-ce que vous avez regardé une série qui a démarré hier soir sur OCS qui s'appelle Toutou Youtou, qui est une replongée dans les années 80.
Et,
non, mais c'est tellement bien fait. Tu vois, tu vois les objets, tu vois les habits, tu vois les coiffures.
On va revenir à l'Auto-Reverse.
J'adore. Mais c'est ça la nostalgie.
Mais la nostalgie, mais ça sert à quoi?
Alors moi j'aimais bien les cassettes audio parce que vous faisiez de petites sélections de morceaux musicaux, vous disiez tiens je vais te faire une compile de tel groupe
et puis parce que tu peux pas faire ça avec les playlists maintenant.
Bah si c'est pas pareil.
C'est beaucoup plus pratique.
Sur un extrait sur 10 heures à la personne.
Les bandes elles sautaient.
Là il y avait le côté artisanal effectivement, on s'était cassé à faire le truc, on faisait un petit paquet cadeau autour. Voilà, et puis moi
je suis sûr que tu le referais pas aujourd'hui.
Mais moi je les si je le referais. Et mais effectivement, je les ai gardées les cassettes comme ça, tu étais tout fier d'avoir la cassette que la personne s'était donné la peine de faire. Il y avait un côté un cadeau virtuel, c'est pas la même chose.
Mais c'est sûr que c'est compliqué de mettre un paquet cadeau dans un morceau de 10 heures,
voilà,
c'est sûr. Mais
autour d'un fichier numérique.
Non, mais qu'on ait de la nostalgie autour de ces vieux jouets, par exemple. Voilà, le Simon, moi j'adorais le Simon. Ça se trouve, ça existe encore.
Le Simon, tu jouerais vraiment, là, si je te le dis.
Ah ouais, alors tu mets un Simon, là. Mais bien sûr, on joue, on fait une battle.
Tout ce qui est technologique, effectivement, je trouve que j'ai aucune nostalgie, parce que ça a vieilli. Effectivement, la cassette, j'en avais 1000. Mais dès qu'on m'a proposé le CD, j'ai trouvé ça mieux. Dès qu'on m'a proposé un chat. Alors que finalement, puisque toi, tu as l'air de vouloir défendre des idées un peu plus traditionnelles et tout. Alors qu'en revanche, un jeu de plateau. Ah bon, le Monopoly, tu remplaceras jamais le Monopoly. Le Monopoly, c'est formidable. Le Monopoly, tu peux y jouer avec tes enfants, c'est formidable.
Jaune,
ça, c'est génial.
Aussi.
Mais en revanche, tout ce qui est technologique, le Simon, honnêtement, tu te vois faire.
Le Simon,
l'hippopotamus, là,
l'hippopotamus. Explique-moi pourquoi c'est le grand retour en force, mais pas depuis maintenant, des vinyles et des tourne-disques. Moi, il y a un de mes jumeaux, il vient de s'en acheter la semaine dernière de tourne-disques. Il s'est acheté des vinyles. Explique-moi
Les vinyles pour les vrais experts de musique, ça n'a jamais été démodé. Il y en a plein qui en avaient encore parce qu'ils aimaient le grain
de la musique. Tu parlais du son technologique.
Mais non, mais là, c'est pas la même chose. Un vinyle, c'est un objet. Enfin, moi, ma fille, elle vient d'acheter effectivement un tourne-disque.
Pareil.
Des vinyles, elle adore ça et pourtant, elle a 18 ans.
Au-delà de la qualité du son. Oui, mais même au-delà de la qualité du son, il y a une nostalgie pour l'objet physique.
Voilà.
Et c'est vrai que acheter un disque. Que remuer la pochette dans tous les sens pour voir les photos, les crédits, les machins.
C'est ça.
Il y a un charme qu'on a perdu.
Et il y a aussi autre chose, c'est que dans les disques, en fait, vous n'achetez pas une musique comme aujourd'hui. Je sais pas, on n'achète plus d'album, on achète une chanson qu'on aime bien. Dans les disques, tu achètes tout l'album, donc tu vois l'univers en fait de l'artiste et tu recrées
paroles,
quelque chose.
Voilà.
Je dois être encore la seule débile à acheter des albums, mais moi je les achète. Hein.
Oui, après, pour avoir l'univers. Dans les CD, parce que dans les CD, il y avait la mode des super beaux livrets.
Oui, t'avais les paroles.
Voilà, dans 20 ans, on regrettera les CD. Moi, j'en ai des 50 à la cave. Des CD.
Et moi, je regarde pas.
Moi, je les ai toujours. Je m'en sers toujours.
Ben, moi aussi.
Si vous avez vos cassettes, vous avez vos CD. on n'est pas surpris. Les abandons du jour.
Ouais, les 63 refuges de la SPA n'ont plus de place cet été, période allant du 1er mai au 31 août. La Société protectrice des animaux a recueilli 16 457 animaux dans ces refuges.
En deux mois? Oui. C'est énorme.
Non, du 1er mai au 31 août.
Ben, ça fait trois mois, quoi.
Ouais, c'est ça, durant la période estivale, ouais. Ce sont des chiffres qui ont été dévoilés hier. Une année 2022 marquée également par une baisse de presque 10% des adoptions au cours du premier semestre.
Mais ça, c'est une catastrophe. Emmanuel Dancourt, on fait quoi, effectivement, si les refuges sont pleins?
Alors, bon, moi, j'ai pas d'animaux à la maison parce que c'est franchement pas mon truc. Mais je découvre les chiffres en même temps que vous tous et je suis catastrophée. Qu'est-ce qui fait que cette année, c'est plus dur que les autres années? On sait que traditionnellement, l'été.
C'est la tendance de l'an passé,
Tu sais, la SPL fait toujours ses pubs contre l'abandon juste avant l'été, justement. Je sais pas ce qu'on fait parce qu'en plus, ces animaux, si je me souviens bien, au bout d'un moment, ils sont obligés de.
Ben non, il les donne. Enfin, il est normalement, c'est des gens qui viennent et qui les.
Oui, mais s'ils n'ont pas assez de demandes, je pense qu'ils
sont piqués. Ils sont euthanasiés au bout d'un moment, ces animaux.
Mais il y a le Covid aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont acheté des animaux pendant le Covid.
Oui, parce qu'en fait,
en mode doudou, en mode câlin, tu veux dire.
Et ben là, et du coup, ben, il y a plus le Covid et donc il est.
Oui, en fait, c'est ça qu'il faut, je pense, répéter aux gens, c'est que c'est pas un jouet, un animal, et que c'est une vraie responsabilité, et que donc on prend pas un animal sans avoir un peu réfléchi avant si on va avoir la patience de s'en occuper. Ça demande du boulot, ça coûte de l'argent. Voilà, c'est pas un truc qu'on fait à la légère parce que c'est criminel de prendre un animal et le laisser après.